il semble qu'il y ait une contradiction. Mais parce que, alors pour une raison déjà, comme on a dit ce matin, cette vie-ci n'est pas tout à fait la vraie vie. Et donc, que cette vie-ci réussisse tout à fait ou pas, finisse bien ou finisse mal, ce n'est qu'un enjeu partiel. L'enjeu réel, c'est la vie éternelle. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que Dieu guérit ? À cause de l'enjeu éternel. Globalement, donc là c'est un peu une parenthèse dans l'étude, mais c'était quasi inévitable. Globalement, la maladie résulte du péché. C'est-à-dire le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le péché déstructure, y compris au niveau physique. Le péché déstructure, et donc l'humanité est malade, quiconque peut être malade. Le plus saint des hommes, des chrétiens, peut être malade, et le plus pervers des tordus peut mourir, être en bonne santé toute sa vie. Mais la maladie, elle est là. Et donc, en guérissant très massivement avec Jésus, moins massivement avec les 12, les apôtres, et puis dans la suite du Nouveau Testament, mais en guérissant massivement, Dieu montre, et Jésus montre, que en enlevant une conséquence du péché, il montre sa capacité à enlever le péché lui-même. Oui, voilà. Et il dit, tes péchés sont pardonnés. Et mais qui peut pardonner les péchés? C'est facile à dire. Bon, ben, lève-toi et marche. Voilà. Et en Israël, la maladie était sinon systématiquement, mais majoritairement associée au péché. Je suis malade, c'est que j'ai péché et Dieu me sanctionne. Parce que l'Ancien Testament disait beaucoup ça. Simplement, l'Ancien Testament n'a jamais dit que ça sera systématique, que c'est toujours le plus pécheur qui sera le plus malade. Ni inversement.
Okay. Oui, Jean, le gars d'Aline.
Pardon ?
Le gars dont parlait Aline, qui meurt, tu as dit oui, ça peut arriver.
Ah, Aline, oui, je ne savais pas ton nom.
Il meurt après moult... reprise, quoi.
Oui, réprimande.
Réprimande, ouais. Il meurt. Celui-là, ça sous-entend qu'il n'est pas sauvé, alors.
Mais si. C'est justement pour pas qu'il soit condamné avec le monde qu'il est châtié, et des fois, ça va jusqu'au décès. Je parle, c'est pas du gars d'Aline, là, je parle du... Pardon. C'était bien quand il n'y avait pas les micros, hein. Oui, voilà, Ananias, par exemple, rien ne dit qu'Ananias et Saphira ne sont pas sauvés. Et personnellement, je pense qu'ils le sont. Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, il dit ça. J'ai livré un tel à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Christ. 1 Corinthiens 5, ou je ne sais plus, on va voir, je vais vous dire ça. Alors ça, il faut se rappeler, 1 Corinthiens 5, 5. Voilà. C'est capital. Si vous voulez, notre réflexion ne doit pas être modelée et orientée seulement par ce qu'on peut voir dans cette vie-ci. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est miséreux? Est-ce que, vous voyez? Oui? Micro.
Oui, j'ai encore une question par rapport à tout ce que tu viens de dire concernant la maladie, la guérison. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que Dieu se repent? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Et dans certains contextes, il est question de Dieu qui se repent.
Ouais.
Est-ce que par rapport au jugement et à toutes ces choses, est-ce que tu peux en dire quelque chose ou pas à
la femme? Je n'ai pas compris à quoi tu appliques Dieu se repent. Quand il guérit? Ouais. Quand il guérit,
est-ce qu'on peut dire qu'il se repent ou est-ce que c'est complètement... Ah.
Alors déjà, Dieu se repent, l'expression revient un petit nombre de fois dans la Bible, même si ailleurs il est écrit qu'évidemment il se repent pas de ses dons ni de son appel, etc. Alors c'est apprendre au sens faible, hein, attention, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire l'expression prend une forme humaine. Et ça veut dire, à vrai dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Pas tout à fait, je ne sais pas tout à fait. Par exemple, il dit, il se repentit d'avoir fait l'homme. Et c'est pour ça qu'il fait le déluge. Mais en même temps, on sait qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde, et il est même écrit que le Fils était prédestiné à être le sauveur par son sang. Donc, ça ne peut pas signifier qu'il a totalement repenti, c'est-à-dire qu'il s'est complètement retourné en disant et qu'il était convaincu que c'était une erreur d'avoir créé l'homme. Ça ne peut pas signifier ça, vu le reste de la Bible. C'est pour ça que les mots doivent signifier pour nous ce qu'ils ont signifié pour leur auteur. Voilà. Donc c'est un sens beaucoup plus faible, c'est un sens qui aide le lecteur humain le mot aide le lecteur humain à comprendre que là il y a eu quelque chose que c'était pas rien. Que c'était pas rien. Ouais. Non, quand Jésus guérit massivement, eh ben c'est juste que c'est simplement qu'il montre une guérison non conditionnelle. C'est ça qu'il faut retenir du fait que Jésus guérit massivement. C'est pas avant dans l'Ancien Testament, c'était pas compliqué. C'était il pardonne toutes tes fautes, il guérit toutes tes maladies dans cet ordre, pas dans l'ordre inverse. Voilà. Et la guérison résultait du pardon. Et là, Jésus arrive. Il mentionne pas le péché des gens. Jamais il demande à un malade qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, ni à quelqu'un de démonisé. Jamais il lui demande, même le gadarénien qui déchirait les chaînes et tout, il lui dit pas, mais enfin, où tu es allé traîner pour te retrouver dans cet état-là. Vous comprenez, hein? Donc, c'est de ce point de vue-là, il y a quelque chose, il y a une gratuité qui fait irruption du ciel. De dire, bon, il ne mentionne même pas les fautes, donc les origines au moins globalisées de la maladie, et puis il guérit. Complètement gratuit, il guérit gratuit. Et c'est pour ça que c'est valide encore aujourd'hui de prier pour la guérison d'un non-croyant, d'un chrétien aussi, mais d'un non-croyant, sans premièrement lui demander où il en est avec Dieu, etc. Et Dieu le guérira comme ça. Après, si lui, il est déjà en interrogation et qu'il relie ça à son rapport à Dieu, il n'y a pas de souci, on parle. Ça va ? Alors, oui, je reformule. Si la maladie est envoyée par Dieu, est-ce que ça sert de prier? Alors, global. Alors, en majorité, les maladies, elles ne sont pas envoyées par Dieu. Elles sont envoyées par la terre, par l'humanité. C'est-à-dire, on est des humains déformés sur une terre malade. D'accord? Voilà, en gros, c'est ça. Chrétien ou pas chrétien, on est égaux face à ça. On est égaux. Donc, en gros, ils ne sont pas envoyés par Dieu. Quelquefois, l'Ancien Testament le mentionne beaucoup, le Nouveau, c'est beaucoup plus rare, mais quelquefois, elles sont une sanction de Dieu. À ce moment-là, ça n'empêche pas. La bonne réponse à ça, c'est Dieu dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, déjà, je frappe et je guéris. C'est-à-dire que c'est celui qui te frappe, c'est un bon père. C'est lui qui te soigne. C'est lui qui te guérit. Voilà. Mais c'est une toute petite proportion, ce qu'on dit là, une maladie qui est sanction de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais ça y est, et plusieurs fois. D'accord ?
Moi, j'ai une question à propos du châtiment. La voilà. Bible parle beaucoup, pour nous chrétiens nés de nouveau, de deux natures, de notre ancienne nature et de notre nouvelle nature. Bon, la question va être simpliste, à ras de terre, mais est-ce qu'il est possible que Dieu nous châtie pour amener notre ancienne nature à tendre vers la nouvelle, ou dans le cadre d'un décès, à carrément attendre vers sa gloire éternelle ?
Oui. Oui. Dans Hébreux 12, ici, dans 1 Corinthiens 11, on a lu... pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, par ses jugements, Dieu nous corrige, nous châtie, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et dans Hébreux 12, il dit, mais Dieu, nos pères nous ont châtiés comme ils jugeaient bon. C'était des fois juste, des fois arbitraire. Mais il dit, mais Dieu nous corrige pour notre bien véritable, pour nous faire participer à sa sainteté. Voilà, donc c'est tout à fait ce que tu dis, bien sûr.
En plus, juste pour synthétiser, j'ai raté un petit peu peut-être des bouts, mais est-ce qu'on peut dire concernant la maladie que généralement elle est juste le signe du péché qui est rentré dans le monde, donc elle fait partie du programme, oui. Et que les chrétiens comme les autres oui. peuvent être au chômage, veufs et ou malades, on espère oui, pas oui. les trois à la fois, mais que voilà, ils sont participants du monde, y compris pour que dans leur consolation, dans cette situation, ils puissent en consoler d'autres. Oui. Il y a un verset qui en parle de ça. Oui. Donc si on n'était jamais malade, est-ce que jusqu'où on pourrait être consolation pour d'autres en disant on peut traverser la maladie avec Dieu ? Et que dans certains cas ponctuels précis, on n'a pas le droit d'exclure que quelquefois Dieu se serve de la maladie pour nous arrêter. Et qu'à cet endroit-là, comme à tous les autres, même quand ce n'est pas un signal de jugement, le tout c'est de le traverser avec Dieu dans un dialogue et oui, aussi dans son action, de s'attendre à lui, même si c'était pour nous reprendre. Mais pas avec le supposé que toute personne malade, Dieu est en train de la reprendre, évidemment.
Non.
De la gronder, de la
châtier. Oui, c'est ça. À 95%, on est malade parce que la planète est malade. Voilà, pas plus. Mais peut-être il faudra réduire un peu le chiffre parce que celui qui est tout le temps, celui qui n'arrête pas de détester, de jalouser les gens et qui se retrouve avec un ulcère à l'estomac, là, c'est pas seulement parce que la planète est malade. Là, il y a un peu mis du sien. Je veux dire, il y a des maladies qu'on se crée soi-même. Hein. Qu'on génère, on ne crée pas rien du tout, mais qu'on génère. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, si un chrétien est malade, eh ben, qu'il soit malade avec Dieu. Non, mais c'est... Voilà. Voilà, qu'il soit malade avec Dieu. Comme s'il souffre, qu'il souffre avec Dieu. S'il est seul, il est... Voilà. Et s'il est hyper riche et hyper fort, ben, qu'il soit riche et fort avec Dieu. Et non pas en se prenant, non pas en pavoisant du matin au soir. Tout vivre avec lui. Voilà. Oui. Globalement, oui. Oui, évidemment. Il a été dit hors micro, il y a quand même des versets avec des promesses de bonne santé. Ok, est-ce qu'on passe à la deuxième partie de l'étude ? Ah non, un petit mot sur culpabilité, désolé tant que j'y suis, à avoir fait le déplacement. Je fais de l'humour pour vous maintenir éveillés. Vous ne comprenez pas, c'est pour rendre service. Alors, si vous voulez... Culpabilité et coupable. Préalable. Dieu n'est pas positif. Il est juste. C'est pas pareil. Dieu ne culpabilise pas, c'est-à-dire ne fait pas tourner la manivelle pour t'enfoncer. Tu as vu comme t'es mauvais. Voilà. Par contre, Dieu déclare coupable. C'est le seul qui peut le faire. C'est le seul qui a le droit de le faire. Hein? Et la parole dit, celui-ci sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc le mot coupable est appliqué et il s'applique à des chrétiens. Donc le chrétien peut être coupable de quelque chose. Simplement, de nouveau, s'il est coupable, il faut qu'il soit coupable avec Dieu. C'est-à-dire, je m'explique, il faut qu'il traite ça avec Dieu, qu'il en parle avec Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit convaincra de péché. Mais en d'autres, c'est synonyme pour te dira sur ce point tu es coupable. Il met le doigt. Ça, c'est connu de tous. D'accord ? Ou alors, il y en a parmi nous à qui ça arrive jamais. Le Saint-Esprit, jamais il met le doigt nulle part. Là, j'espère que non, sinon il faut s'inquiéter. Hein ? Voilà. Donc, voilà. Donc, associer systématiquement l'idée de coupable et donc le qualificatif, le verbe culpabiliser, la culpabilité plutôt, pardon, le mot culpabilité, l'associer systématiquement à l'ennemi, au diable, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. En vérité, c'est une ignorance. Je veux dire, ceux qui font ça, ils étalent leur ignorance, c'est tout. Le diable, nulle part la Bible ne dit que le diable déclare des hommes coupables. C'est Dieu qui déclare des hommes coupables. Le diable, il l'accuse. Et il fait exprès d'accuser indifféremment des coupables et des acquittés pour mettre de la confusion. Parce que non seulement il ne peut travailler que dans les ténèbres, mais il ne peut travailler que dans la confusion. Donc, des fois, il y a des gens qui viennent à une réunion pour la première fois, je parle, ou qui entendent, qui discutent avec quelques chrétiens, donc des gens pas croyants, je veux dire. Ils arrivent et puis ils disent « Ouais, j'aime bien vous, c'est plein d'amour, tout ça, super. » Et puis au moins, ce n'est pas un christianisme culpabilisant, vous ne nous gonflez pas avec le péché, tout ça. Bon, eh bien, des fois, on est même content de ce genre de félicitations. Mais on devrait pleurer. Alors, non, pas à ce point. Mais un jour ou l'autre, cette personne devra comprendre que objectivement coupable, c'est une chose, et être le jouet de l'accusateur, c'est autre chose. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, le chrétien, il ne lutte pas contre la culpabilité. Quand il est repris, il se repent, et c'est tout. Voilà. Et s'il est accusé, il ne lutte pas contre la culpabilité, il lutte contre un mensonge. Parce que le diable accuse un acquitté. Le juge m'a acquitté. Et donc, quand je rejette les accusations, en fait, ce n'est pas une culpabilité que je rejette. Si j'ai un problème avec une culpabilité, c'est que j'ai déjà cru ces accusations. Voilà. C'est que j'ai déjà cru. Mais objectivement, si on reste que sur la question coupable ou pas coupable, eh bien, c'est pas, je dirais, accessoirement, il n'y a pas de verset, à ma connaissance, qui parle de lutter contre la culpabilité. La tentation, oui, le péché, oui, la chair, le monde, les esprits méchants, il y a de quoi lutter, mais contre la culpabilité, non. Parce que dans la Bible, coupable ou pas, c'est le domaine réservé du président. C'est le domaine de Dieu. C'est lui qui dit. Et le diable, il n'a aucun accès là.
Est-ce qu'on peut dire qu'on se retrouve quelquefois à lutter contre une fausse culpabilité
oui.
à cause de notre éducation, par exemple, ou d'une vision erronée de Dieu et de comment il fait, alors que ce sont les accusations du diable? Parce que souvent, il part avec quelque chose sur lequel Dieu pourrait nous reprendre. Et on arrive mal à faire la différence entre alors, Dieu nous reprend sur quelque chose et l'autre qui nous accuse. Et là, on est coupable de tout ce qu'on est et pas de ce qu'on a fait précisément.
Là, contrairement à la question d'être malade et mourir, là, il y a des critères objectifs, des critères écrits. Dieu, il te reprend sur ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as pensé. Il te reprend, une fois que tu es chrétien, il ne te reprend pas sur ce que tu es. Alors que le diable, il accuse, il ne va pas te dire « t'as menti ce jour-là », il va dire « t'es un menteur et tu restes menteur, et t'as toujours été un menteur, t'es un lâche, et tu es, voilà. » Il accuse « c'est tu es ». Et quand Dieu corrige, c'est plutôt « tu as fait, tu as dit, tu as pensé ». Vous voyez ? Donc il y a des critères comme ça et d'autres. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça va ? Bon, eh bien.
Peut-être je voudrais juste ajouter, ça marche ?
Oui.
Juste ajouter que quand c'est Dieu qui nous reprend, ouf, ça va mieux. On a envie de se repentir et on se sent bien, on se sent libéré. Et quand c'est le diable qui nous accuse ou qui nous fait croire qu'on est... Alors là, c'est le trouble et on est très, très mal.
Oui, le but de l'accusation, c'est que ça tourne, que ce soit jamais fini. Alors que le but d'une réprimande de Dieu, c'est de mettre la lumière et d'arrêter le problème mauvais. Après, quand même, quand Dieu nous reprend, les premières secondes ou minutes, des fois, on n'est pas bien. Hein. On est beaucoup pas bien. Ben oui. Et heureusement, je veux dire, on est des êtres, il y a l'âme, on a une conscience, il y a des émotions, donc on se sent pas bien. Mais comme il indique le repentir, donc le pardon, du coup, on est repris, mais il y a une porte ouverte devant. Alors que quand c'est l'accusateur, c'est ouvert nulle part. Tac, tac, tu, voilà. Et ça peut durer toute la vie. Hein. Il y a des choses dont les gens se sentent coupables pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans. Voilà. Ok. Allez, deuxième partie de l'étude. Alors bon, je sais pas. Moi, j'ai le temps, hein. Mais allez, on va accélérer un peu. Alors, Dieu jugera tous les hommes et aussi les saints. Donc, ça revient dans différents endroits de la Bible régulièrement, hein, que Dieu doit juger, Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts, que Dieu jugera tout homme, chacun rendra compte, etc. Ça revient d'un bout à l'autre de la Bible. Okay. Et dans l'Apocalypse aussi, hein. On l'a lu, je viens avec ma rétribution, etc. Alors, ça veut dire, il juge la terre, il juge son peuple, il juge, donc la terre, ça veut dire aussi l'humanité sans Dieu, il juge son peuple, évidemment il va condamner le diable et les démons, c'est pour eux qu'a été fait l'étang de feu et de soufre, c'est écrit au départ, il n'est pas fait pour des hommes. Alors, Dieu dit que des hommes iront, il en jettera aussi dedans, mais au départ, ce n'est pas fait pour eux. C'est fait pour le diable et ses anges. Voilà. Et puis en plus, mais ça c'est peut-être la dernière partie. Non. Il juge au présent et il jugera. C'est-à-dire, quand vous lisez, j'ai un peu évoqué ça, qu'il utilise un peuple pour en châtier un autre, etc. Quand on lit comme ça en suivi, c'est clair qu'au long de l'histoire, un certain nombre de choses sont déjà des jugements de Dieu. Alors, nous, on ne doit pas, comment dire, se gargariser de ça et on donne notre. On n'a pas un mandat pour faire l'interprétation auprès du non-chrétien, qu'est-ce qui, dans son histoire, est jugement de Dieu ou pas. On n'a pas ça. Par contre, on n'a pas non plus le droit de dire à un non-chrétien que rien n'est jugement de Dieu. Voilà. Parce qu'on ne lui rend pas service en faisant ça. D'accord ? Mais il juge déjà et il jugera à la fin. Alors, il juge déjà dans le monde. Il y a un certain nombre de catastrophes, d'échecs, de chutes de civilisation, chutes d'empire, etc., sont des jugements de Dieu déjà. Et là, ça c'est, mais alors ça, 100 fois, 200 fois, c'est marqué dans la Bible, ce genre de choses, il y a des exemples de ça. Voilà. Je jugerai la nation dont ils ont été les esclaves. Voilà, une des premières choses que Dieu dit à Israël. Voilà. Je juge l'Égypte parce qu'ils vous ont fait esclaves. Vous voyez, par exemple, l'exemple le plus gros, c'est le déluge, qui a été une pré-fin du monde. Ce n'est pas difficile de croire qu'il y aura une fin du monde, hein, même sans la bombe atomique. Hein. Il y en a déjà eu une. Et c'était clairement un jugement. Voilà. Mais aussi, au long de l'histoire de l'Église, il y a des jugements. Et Jésus en promet. Il dit, si tu ne te repens pas, il dit à la première église des sept dans l'Apocalypse, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et au chapitre précédent, le chandelier, c'est l'église. Il y a des chutes d'église, des explosions d'église qui sont des jugements de Dieu. Évidemment, c'est que les chrétiens auront fait ce qu'il faut pour que ça arrive. Et persister, et pas écouter, et peut-être pas pris en compte des coups d'arrêt. Je peux enlever le peut-être, hein. On le sait, je veux dire. C'est incroyable ce qu'on peut souffrir sur terre, mais et là, c'est aussi étonnant ce qu'on peut souffrir dans une église. À cause de qui ? En l'occurrence, des péchés de chrétiens. D'accord ? Voilà. Donc, il est heureux que Dieu juge son peuple. Après, bon, j'enlève l'Église, ça c'est une sanction assez ultime là. Ça peut être moins quand même, heureusement. Je répète que Dieu corrige par sa parole, premièrement. Voilà, donc il juge la terre, il juge les nations, voilà. Après, il y a même des catastrophes qui sont annoncées comme des jugements de Dieu. C'est-à-dire non seulement quand elles arrivent, il y a un prophète qui dit là c'est Dieu, mais à l'avance, tout ce qui est écrit sur Babylone, par exemple, la ville physique, politique de Babylone, là-bas, en Mésopotamie, c'était prophétisé qu'elle sera désolée, qu'elle sera abattue, qu'il n'y aura plus que des blaireaux et des lézards, enfin, je ne sais plus quels animaux sont mentionnés. Voilà, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Vous comprenez ? D'accord ? Bon, ils jugent le monde, ils jugent des peuples, ils jugent des civilisations, des empires, des dynasties, des entreprises, des familles, des individus. D'accord ? Jusque-là, ça va ? Et ça, il continue. Voilà. Oui ?
Alors, j'ai une question, ce n'est pas une question piège, mais c'est une vraie question que j'ai. Ouais. Comment Dieu peut juger des gens qu'il n'a pas prédestinés ? Ah.
Prédestinés. Alors, je vais te faire une sainte dérobade. Pas tout à fait, une demi-dérobade. Donc, c'est le Nouveau Testament qui parle clairement d'élection et de prédestination. Hein, une cinquantaine de fois, quand même. C'est pas un point... voilà. Complètement annexe. Elle n'en parle que à des gens qui sont devenus disciples de Christ. C'est-à-dire que Dieu ne parle aux humains de prédestination qu'une fois qu'ils sont entrés. Et en fait, même s'ils ne leur disaient pas, ils le sentent. Ils sentent que finalement, ouf, ça y est, j'ai trouvé mon lieu. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faille associer la question de la prédestination à la question du péché, de la corruption et du châtiment de Dieu. Voilà. Il me semble, je ne connais pas de texte qui associe les deux choses. Comme on a dit ce matin, Dieu, il est bon, ça inclut qui juge. Donc celui qui juge est bon et donc il fait bien.
Alors je n'ai pas associé la prédestination au châtiment.
J'entends.
Je l'ai associé au jugement ultime, final.
Oui.
Donc,
J'entends.
Ça exclut tout châtiment, toute sanctification.
Oui, d'accord. Seulement la condamnation ultime, oui. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. De toute façon, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui perd. Ça, c'est clair dans la Bible. Nous sommes bonne odeur de Christ. Il est écrit aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Et pourtant, c'est une bonne odeur. Et ça, il y a une tension, comme on dit, il y a les deux. Et moi, je ne peux pas réduire cette tension et je pense que je ne dois pas la réduire. J'ai pas de réponse. Je ne veux pas faire des pirouettes et tout pour trouver un truc satisfaisant. Peut-être qu'il y a, que Dieu a éclairé d'autres personnes, mais je ne sais pas. Je sais, tout ce qu'on sait, c'est que, comme on l'a lu, Romains 2, 2, le jugement de Dieu sera selon la vérité. Ça sera en aucun cas un abus de pouvoir. Si vous laissez ça, dit oh les pauvres, ils ne savaient pas.
Pardon, Jean, j'ai une question de Bernard là, qui demande est-ce que Dieu peut se servir d'une catastrophe comme un avertissement aussi ? Ouais. Pas comme un jugement, mais comme un avertissement.
Absolument. Absolument. Mais Jésus le dit, hein. Quand vous verrez ces choses, etc., quand il parle des temps de la fin, mais pas que, quand il parle de l'histoire d'Israël, Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien entendu. Oui. Alors, à vrai dire, dans quelle mesure le châtiment, donc sur un chrétien, tu veux dire, qui irait un châtiment qui va jusqu'au décès, dans quelle mesure il contribue à ce que l'esprit soit sauvé. Alors en vérité, on a un peu télescopé deux versets. Quand Paul dit que l'esprit soit sauvé, la chair soit détruite, l'esprit, la chair au niveau là, il parle du physique, hein, du corps, de l'âme, tout ça, pas force, pas la tendance au mal, que la chair soit détruite et que l'esprit soit sauvé au jour de Christ. Là, quand il dit j'ai livré à Satan, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a plus la protection de Dieu sur cette personne, et vulgairement parlé, elle va en prendre plein la figure. Voilà. Donc là, c'est les privations, le fait qu'il va se retrouver en short, c'est ça qui va contribuer à ce que, parce qu'à un moment, il va faire comme le fils prodigue. Parce que c'est flagrant dans l'histoire du fils prodigue, c'est sa faute à lui, évidemment, mais quand même, il y a une famine qui vient, ça, c'est pas sa faute. Mais vu comme s'il s'était pas comporté comme il l'avait fait, il avait largement de quoi faire face à la famine. Voilà. Donc, voilà. Après, ceux qui meurent, par exemple les Corinthiens, là, c'est pas leur décès contribue pas à leur salut. Mais on peut raisonnablement penser qu'ils auront perdu des récompenses. Puisqu'au lieu de vivre leur vie comme pour les œuvres de Dieu et de construire avec des matériaux nobles qui peuvent traverser le feu, voilà. Mais il y a le salut. Voilà. Donc, Dieu juge dans l'histoire, puis au dernier jour.
Encore une question.
Oui, c'est où?
Dans l'Ancien Testament, quand Dieu juge, donc, quand Dieu juge les pères, les pères, par exemple, et aussi il y a des séquelles sur les fils et les petits-fils, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à 4 générations. Dans le Nouveau Testament, c'est plus d'actualité, donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Dieu juge plus de la même manière que dans l'Ancien?
Oui, bien sûr qu'il y a des différences. Il y a des différences. Alors déjà, dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui soit dit sur la répercussion du père au fils, du grand-père, etc. Il n'y a rien qui est dit là-dessus dans le Nouveau Testament. Alors déjà, dans l'Ancien, c'est limité. C'est 3 ou 4 générations et il dit 1000 pour ceux qui me craignent et qui m'aiment. Donc, mais bon, 3 ou 4, c'est pas mal quand même. Dans le Nouveau, c'est vrai qu'il n'y a rien d'écrit sur une éventuelle répercussion. Après, il y a des conséquences purement psychologiques et physiques et techniques que le comportement des parents induit. OK, ça, voilà. Mais là, c'est pas, j'allais dire, c'est pas Dieu qui en est l'auteur. Je dirais, parce que, comment dire, la comparaison entre les deux testaments n'est pas facile parce que dans les deux cas, c'est le peuple de Dieu. Et dans le premier cas, c'est un peuple pré-adolescent, tête de mule, au plus bibliquement, un peuple à la nuque raide. C'est ce qui est écrit. Hein, et toute la loi sert en partie, la loi sert beaucoup à faire connaître Dieu, à le révéler. Mais elle sert en partie à rendre flagrant la gravité du péché et sa nuisance, à rendre flagrante la nuisance du péché. Et donc, dans cette alliance-là, les sanctions venaient beaucoup plus vite. Les sanctions arrivaient plus vite, que ce soit par la météo, par la qualité des sols, par la santé du bétail, la santé des humains, que sais-je, les finances, voilà. Et bien que dans l'Ancienne Alliance, Dieu parle beaucoup aussi, par Moïse, par la loi écrite, mais aussi par beaucoup de prophètes. Cependant, dans le Nouveau Testament, pour son peuple, il n'y a pas l'idée d'une sanction rapide et immédiate. Alors, il y a des exceptions à Ananias et Saphira. Après, il faut voir dans quel contexte ils ont commis leur faute. Tu as une sainteté, c'est quasiment la sainteté du paradis qu'il y a au milieu d'eux. Et eux, ils arrivent, ils commencent à mentir là, ils persistent. Bon, là, bon, ils décèdent sur le coup. Mais à part cet exemple, l'idée qui domine dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu parle, reprend, corrige, le Saint-Esprit convainc de péché. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça répond à peu près? Ok.
Sur la transmission, genre de génération en génération, il y a un passage qui dit, on disait le proverbe, les parents oui. ont... Mais maintenant, on ne le dira plus, c'est déjà oui. dès l'Ancien Testament.
Oui, c'est Jérémie, je crois, ou Ézéchiel, je ne sais plus.
Il dit bien, il n'y a plus de transmission.
Oui,
de
peut-être Ézéchiel. Oui.
C'est celui qui pêche qui mourra.
Oui, c'est ça. C'est écrit, oui. Voilà. Donc, Apocalypse 11, verset 18, « Le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, etc. » Et donc, sur quoi hein? Alors, Dieu nous juge, je l'ai déjà dit, mais je vais dire quelques versets. Dieu nous juge au présent comme à la fin, sur notre cœur. Hébreux 4, verset 12, « La parole de Dieu est juge des sentiments et des pensées du cœur. » C'est la première chose. Que nul parmi vous n'ait un cœur méchant et dur au point d'abandonner le Dieu vivant. Voilà. Il nous juge sur le cœur. Voilà. Dans l'Église, le monde et à la fin aussi. D'accord ? Bon, personne n'est d'accord. Parce que personne n'a... Ensuite, je l'ai déjà cité. Donc ça, c'est Hébreux 4, 12. Ensuite, Matthieu 12, 36. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc de ce qu'on a dit. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Alors là, il y a un sous-chapitre pour les paroles. Qui n'est pas propre au Nouveau Testament, qui est dans le Nouveau, mais qui est dans l'Ancien aussi. Dieu parle d'une condamnation particulièrement sévère envers les prophètes qui auront prophétisé quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que ceux qui enseignent, il dit nous, Jacques, parce qu'il le fait, lui il enseigne aussi, il dit nous subirons un jugement plus sévère. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui enseignent de la part de Dieu seront jugés sur leurs paroles encore plus que sur les autres paroles. Et c'est bien normal, parce que l'auditeur en toute bonne foi, surtout s'il est nouveau chrétien, il ne peut pas toujours vérifier si c'est juste ou il n'a pas encore assez d'éléments pour avoir un petit clignotant qui dit oh, « mais c'est pas très biblique ce qu'il raconte lui derrière son micro ». Vous voyez, c'est normal, mais c'est écrit. Et il faut, et donc moi par exemple qui suis directement concerné par cette parole, ce n'est pas une parole qui me gâche ma vie. Je respecte cette parole, je l'aime aussi. Elle m'a été utile pas mal de fois pour me dire, mais attention, j'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Ni pour plaire, ni à l'inverse, pour dominer ou être dur avec les... Voilà. Et puis évidemment, Dieu juge sur le faire. Non, on l'a lu ce matin, hein, ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront pratiqué le mal. Voilà. Et donc, l'expression « il jugera chacun selon ses œuvres » est répétée plusieurs fois dans le Nouveau Testament aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une façon de se tromper soi-même, de s'illusionner. Il y a une manière de se tromper soi-même en disant ouais, « ce qui compte, c'est que je crois en Jésus, qu'il est mort pour moi, amen. » Et puis, je serai jugé que là-dessus. Est-ce que j'ai cru ou je n'ai pas cru ? Oui, c'est ça qui fera que je suis sauvé ou pas. Mais je serai jugé sur le reste. Moi, je me suis comporté. Et si vous voulez, on peut aller. J'imagine qu'il serait heureux de s'acheminer vers la fin. Mais je n'ai pas entendu des cris d'enthousiasme. Hein. Bon, je vous fais des abrégements ou pas d'abrégements. C'est pas possible. Où j'en étais ? Hein ? Comment ? Ah oui, 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 Dieu juge. Je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué un peu, oui. Encore un peu plus, oui. On va... Donc, vous connaissez... Ah oui, je vais vous citer un verset, Ésaïe 26, verset 9. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. C'est-à-dire que Ésaïe 26, 9. C'est-à-dire que les jugements présents sur le monde, sont des prémices du jugement final, mais ils l'annoncent, mais aussi ils peuvent servir à éviter le jugement final. Enfin, du moins la condamnation finale. Parce que le jugement, personne ne l'évitera, on sent tous, tout le monde sera jugé. Alors, encore un petit mot sur Dieu juge son peuple. Où ça va? 1 Pierre 4, verset 17. Peut-être, après je vais vous dire si on remonte un peu ou pas. Non, 17, oui. 17, 18, 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Impie, c'est-à-dire sans piété, qui n'honore pas Dieu. Des pécheurs. Alors que le jugement commence par la maison de Dieu, je l'ai déjà dit ce matin, peut-être tout à l'heure, c'est une réalité et c'est normal, puisqu'il est, c'est sa maison, donc c'est là où il amène le plus de lumière et où il fait le ménage, si vous voulez. Il y a un gros contraste entre sa maison et le reste du monde, parce qu'il dit... Si Dieu commence par nous, comment ça va finir pour ceux qui lui obéissent pas du tout? Mais Pierre rajoute une idée, et une idée pareille qui est qu'il faut admettre, qu'il faut pas écarter, c'est que le juste est sauvé difficilement. Et chez Pierre, c'est une idée qui revient plusieurs fois. À un endroit, il dit, en faisant ça, en ajoutant toutes sortes de bonnes choses aux bonnes choses dans votre vie, c'est ainsi que l'entrée dans le ciel de Dieu vous sera donnée largement. Ce qui montre que l'entrée peut être donnée moins largement. Voilà. Le juste est sauvé difficilement. Alors ça veut pas dire que. Alors ça veut premièrement dire que la vie chrétienne peut être difficile. Difficile de lutter contre des tentations, difficile de privilégier l'obéissance à l'égoïsme, etc. D'accord, voilà. Mais c'est pas que ça. Ça veut clairement dire que quand le juste arrivera, eh bien, faut pas croire que Dieu va juste se lever, le féliciter, et dire oh, super, on se languissait de toi. Et enfin, voyez. Alors, on se languissait de toi peut-être, mais difficilement. L'apôtre Jean dit, l'apôtre de l'amour, comme on dit, il dit, afin que nous n'ayons pas honte devant lui, le jour où il paraîtra. Il dit ça aux chrétiens. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur. C'est des versets que moi qui vous parle, en l'occurrence, j'ai totalement intégré depuis de très, très longues années. Vraiment, hein, 20 ou 30 ans minimum, peut-être plus. Oui, plus. Et ça ne produit pas de la peur en moi. Pas du tout. Ça produit de la lucidité. Voilà. Je ne m'imagine pas que je suis infaillible, que tout est OK, que toutes mes motivations sont toujours pures, que j'ai tout le temps la docilité voulue envers Dieu, que tous mes choix sont conduits, que toutes les pensées qui me viennent sont de Dieu. Que, vous comprenez? Si vous voulez... Quand il se développe une tendance, ou un courant, ou je ne sais pas quoi, bon, une manière d'être, quand se développe une manière d'être où on est tellement positif que que tout est bon avec moi. Tout ce qui me vient, c'est de Dieu. Toute inspiration que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que je fais, c'est un bon témoignage. Et voilà. Quand je suis pris dans ce genre d'idéalisation utopique, il faut s'inquiéter.